Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, nouveau le Salon du vin bio, les 27, 28 et 29 avril prochains, salle de l'atelier à Villefranche, à la rencontre de nos vignerons producteurs, mais aussi des conférences, animations et dégustations seront au rendez-vous avec nous Alexandre Chavanne, vigneron au Beaujolais des Pierres Dorées, Priscilla Adjou, entrepreneur dans l'événementiel à l'initiative de l'événement. Puis, démolir sans oublier, c'est le projet qu'a engagé depuis le printemps dernier l'OPAC du Rhône et ses partenaires sur le quartier de Belleroche. Tout d'abord, une collecte mémorielle, des témoignages recueillis des locataires de la Grande Barre des Cygnes qui doit disparaître. Un livret est né, mené par l'Association lyonnaise des hommes et des lieux, avec nous Isabelle Viry, coordinatrice de l'association, et Khedija Laïchi, directrice de la qualité de vie des résidences de l'OPAC du Rhône. Et en conclusion, Florence Raymond est l'une des 10 artistes invitées à l'espace Cornil, annexe du musée Paul Digny à Villefranche, dans le cadre d'un été contemporain. Calade, le journal. La ministre des Armées a réagi à des informations du collectif d'investigation Disclose qui a dévoilé lundi un rapport classé secret défense. Article du journal Le Monde avec Reuters, l'agence de presse londonienne. La ministre des Armées Florence Parly dit ne pas avoir d'éléments de preuve montrant que des armes de fabrication française utilisées par l'Arabie Saoudite auraient fait des victimes civiles dans la guerre au Yémen. À ma connaissance, ces armes ne sont pas utilisées de façon offensive dans cette guerre au Yémen. Et on ne peut donc pas, de façon mécanique, en tout cas, moi, je n'ai pas d'éléments de preuve permettant de dire cela, que des armes françaises sont à l'origine de victimes civiles au Yémen, a-t-elle déclaré sur Radio Classique. Pour ces deux partenaires stratégiques, pour la France, que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats, les livraisons se poursuivent officiellement avec une vigilance renforcée. Sous le filtre néanmoins opaque de la commission interministérielle d'exportation des matériels de guerre qui dépend de Matignon. Le seul bilan des frappes aériennes depuis 2015 témoigne de l'ampleur de l'enjeu. Selon la DRM, la Direction du renseignement militaire, 150 missions aériennes de tout type ont été menées par la coalition arabe, dont 24 000 frappes, 6 000 en 2018. Le collectif de journalistes Disclose publie un document du renseignement militaire d'octobre 2018. Le gouvernement considère que ces armes sont, pour l'essentiel, en position défensive. Article de Louis Humbert et Nathalie Guibert pour le journal Le Monde. Florence Parly réagissait notamment à des informations du collectif d'investigation Disclose, dévoilant lundi ce rapport d'octobre 2018 de la direction du renseignement militaire classé secret défense. Le collectif conteste l'affirmation du gouvernement selon lesquelles les matériels français n'auraient que des fonctions défensives. Selon ces documents qui évaluent l'action de la coalition et détaillant le rôle des armements acquis par les protagonistes, les armes exportées par la France. Notamment, des canons César seraient utilisés dans la guerre en cours, y compris dans des zones civiles. Tous nos efforts et tous les efforts de la communauté internationale sont orientés pour essayer d'arrêter ce conflit et de lui trouver une solution politique, a dit la ministre des Armées, dénonçant une guerre sale. Pauvre petite Parly, elle ne savait pas, elle, que lorsque l'on vend des armes, on s'en sert. Nouveau, le Salon du vin bio, les 27, 28 et 29 avril prochains, salle de l'atelier à Villefranche, à la rencontre de nos vignerons producteurs, mais pas que. Des conférences, animations et dégustations gastronomiques seront au rendez-vous, entre autres. Comme nous le précise Alexandre Chavanne, vigneron en Beaujolais des Pierres Dorées, domaine des Côtes d'Or à Pouilly-le-Monial, et Priscilla Adjou, entrepreneur dans l'événementiel, à l'initiative de l'événement.
Donc, j'allais presque dire que ce salon du vin bio, c'est à la fois se cultiver de façon double, cultiver bien sûr sa terre, mais aussi cultiver son esprit, c'est un petit peu ça?
Exactement, c'est le salon du vin bio, mais pas que, parce que vous aurez des conférences sur la vie de la terre, des conférences sur le label bio, des conférences sur l'alimentation, sur la viticulture, donc je pense que c'est très riche pour que tout le monde puisse trouver sa place dans ce salon. Les animations enfants aussi, On va leur faire découvrir le goût, alors pas le goût du vin, mais le goût des fruits, des arômes, faire fonctionner leur sens. Voilà, qui sera animé par les scouts de France d'ailleurs.
Priscilla Adjout, entrepreneur depuis quelques mois dans l'événementiel. Donc, je suis installée sur la commune de Saint-Loup, près de Tarare. Voilà, et j'officie principalement dans le pays Beaujolais, qui est ma terre d'adoption. On sent depuis quelques années un peu cette tendance, cette mouvance, l'intérêt grandissant du public pour les salons du vin bio et finalement peu d'occasions d'aller à la découverte des producteurs de vin bio, sauf à prendre sa voiture et à faire le tour des exploitations. Donc l'idée, c'est de rassembler en un seul et même lieu, donc sur 3 journées, des producteurs de vin bio, donc du Beaujolais, mais aussi de toute la France, puisque toutes les régions de France quasiment sont représentées. Et on a envie justement de mettre à l'honneur ces producteurs qui n'ont pas choisi toujours la facilité, puisque se convertir en bio, c'est beaucoup de travail et ça représente aussi des difficultés parfois dans le processus. Donc on a envie de les mettre à l'honneur, on a envie de leur donner une vitrine. Et de leur permettre d'entrer en contact aussi bien avec le grand public, les consommateurs et aussi avec les professionnels, puisque le lundi, on aura une journée spécifique pour les exploitants, cafés, hôtels, restaurants, qui sont aussi des acheteurs. Et donc, on a envie vraiment de créer cette rencontre. Aujourd'hui, on trouvait qu'il y avait assez peu d'occasions pour les petites exploitations, les moyennes exploitations, de se présenter au grand public. Donc, voilà pourquoi.
Parce que ça a un coût, bien évidemment, Alexandre Chavanne.
Alors oui, effectivement, les stands sont souvent très chers. On a voulu un salon avec un prix accessible pour les vignerons, pour que les petits vignerons puissent être représentés. Les salons bio sont souvent des très gros salons. Et donc, soit il faut se partager un stand à plusieurs et c'est compliqué. Là, chaque vigneron va pouvoir s'exprimer avec ses vins et son stand.
Aujourd'hui encore, on parle, vous l'avez dit, de difficultés pour les producteurs que de devenir en quelque sorte bio. Pourquoi c'est si long finalement ? On peut s'en étonner.
Alors c'est long parce qu'il y a pratiquement, on va dire, 5 ans de conversion entre le moment où on décide et qu'on fait le choix de changer son mode d'agriculture, de passer au conventionnel, à la viticulture biologique. C'est le prix à payer, on va dire, pour que les terres soient saines et repartent sur des choses plus biologiques. Donc c'est vrai que c'est un engagement qui est coûteux en temps, en production, puisque effectivement les productions sont plus faibles.
Moins de recettes.
Donc il faut pouvoir, effectivement, moi j'ai la chance d'avoir une activité un peu annexe qui me permet je loue mon domaine pour des réceptions et ça m'aide beaucoup à faire cette transition.
Bien sûr, des producteurs qui auront envie de vendre ou, en tous les cas, de faire découvrir leur gamme. Et puis aussi, on l'a dit, la culture qui sera au rendez-vous avec différents conférenciers. On ne peut peut-être pas tout citer parce qu'il y a quand même 3 jours, me semble-t-il. Mais peut-être des temps un petit peu forts.
Oui, des temps forts. Le samedi, alors pour les amoureux de la terre et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, il y aura une conférence sur la géologie animée effectivement par un universitaire qui nous fait l'honneur d'être là, qui va nous parler à peu près de 4 milliards d'années d'histoire géologique. Et puis on aura le dimanche, le temps fort, ça va être la table ronde animée par votre radio, avec des experts qui vont venir parler des enjeux de la viticulture, de l'agriculture biologique dans son ensemble.
Les 27, 28 et 29 avril, salle de l'atelier à Villefranche. Plus d'infos, salondu-vin-bio.com. Démolir sans oublier, c'est le projet qu'a engagé depuis le printemps dernier l'OPAC du Rhône et ses partenaires sur le quartier de Belleroche. Une collecte mémorielle pour permettre aux locataires des signes de laisser une trace après la disparition de la grande barre. De ces témoignages recueillis, un livret est né. Ils ont été menés par l'association lyonnaise des hommes et des lieux. Avec nous pour nous en parler, Isabelle Viry, coordinatrice de l'association, et Khedija Laïchi, elle est directrice de la qualité de vie des résidences à l'OPAC du Rhône.
Alors le futur très très proche, c'est un quartier Belleroche qui est donc en transformation importante puisqu'il a été quartier prioritaire renouvellement urbain. L'OPAC n'est pas le seul partenaire bien sûr, nous avons d'autres bailleurs sociaux, HBVS et l'IRA. Donc on va dire que le futur proche c'est surtout la démolition de la barre des signes puisque c'est quelque chose qui a été décidé en amont du protocole d'accord sur les projets finaux et finalisés de cette transformation du quartier. Lié à la démolition, mission, il y a bien sûr le relogement des habitants. Donc ils étaient effectivement 185 ménages, on va dire, au départ de la décision de démolition et de relogement. La barre des signes, c'est 203 logements. On va dire que normalement, à septembre 2019, tout le monde devrait être parti. Et du coup, on démolira, on va dire, tout début 2020.
Alors, démolir, oui, mais sans oublier tout, j'allais dire, l'histoire, effectivement, de cette vie dans cette barre des signes qui compte de nombreuses années. Et vous avez eu cette idée de vous tourner plus vers le culturel. Et moi, je me tourne plus particulièrement vers vous, qui êtes meneuse d'un projet suite à cette prochaine démolition.
Effectivement, le PAC du Rhône nous a missionné pour pouvoir entreprendre une collecte mémorielle des habitants de la Grande Barre et aussi s'enrichir aussi de la vie du quartier de Belle-Roche pour pouvoir avoir une approche à peu près globale des habitants du quartier. Nous avons pas mal d'entretiens avec des personnes, nous avons retranscrit des histoires de vie, nous avons mené des ateliers d'écriture auprès d'habitants et puis nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs sur le quartier, de collectivité, de manière à pouvoir avoir une vision assez globale du quartier de Belle-Roche. Alors les témoignages sont essentiellement des histoires de vie de personnes qui ont travaillé dans le quartier. Les histoires sont souvent des histoires assez rudes. Voilà, et puis autrement, il y a quand même un grand sentiment de solitude et d'abandon des gens du quartier. C'est ça qui ressort beaucoup.
Le livret intitulé « La grande barre des trajets entre bruit et silence » composé des différents témoignages des locataires de la Grande Barre des Signes à Belle-Roche, sera édité et consultable en médiathèque. Et pour conclure cette édition, un nouveau clin d'œil à l'une des 10 artistes femmes qui sont à l'honneur à l'Espace Cornille jusqu'au 22 septembre, annexe du musée Paul Dini à Villefranche. C'est sous le thème « Elle, question de genre » que se présente la nouvelle exposition Un été contemporain 2019. Rien n'est jamais tranché franchement pour l'artiste Florence Raymond et ses personnages semblent évoluer dans un environnement éphémère et insaisissable qu'elle nous dévoile à peine.
Florence Raymond, j'allais dire, une atmosphère en tous les cas dans vos œuvres d'éphémère, tout à la fois évanescent, avec cette idée de disparition peut-être petit à petit des personnages, est-ce que...
Oui, tout à fait. Ça part de photos de famille, plus exactement des diapositives de mon père que j'avais fait développer. Et en fait, comme je me rappelais plus de rien, j'ai essayé de recomposer des scènes qui étaient comme des scènes un peu spectaculaires, magiques, merveilleuses du monde de l'enfance, où en fait ça parlait de souvenirs. Et donc pour moi, le souvenir, c'était quelque chose un peu qui apparaît, qui disparaît, un peu évanescent.
Mais quel est finalement votre univers, on peut dire ? C'est toujours ce côté familial qui vous anime, en fait ?
Oui, moi, je travaille beaucoup de la famille, de l'enfance et de ce qui fait la protection. Voilà, comme par exemple la Vierge au manteau, ça, c'est mon nouveau travail. C'est qu'est-ce qui protège, qu'est-ce qui fait maison ?
Oui. Parce que, pour quelles raisons, est-ce que l'on peut, je ne sais pas, on ne peut pas bien l'expliquer, mais...
Parce que je suis quelqu'un de très sensible, et très sensible au monde, et c'est vrai que l'histoire de la protection, d'être à l'intérieur, dehors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Alors, comment interpréter effectivement votre Adam et Ève, me semble-t-il ?
Oui. Dans le nouveau travail, je résumais un peu ce qui m'animait, c'est-à-dire la vie qui surgit, la vie rayonnante, ensoleillée par la couleur jaune, qui est pour moi une couleur très compliquée à gérer en peinture, à la fois séduisante et à la fois vraiment asphyxiante. Et quelque chose qui serait de l'ordre de casser un désir, couper un jaillissement, et qui serait plutôt de l'ordre du marron.
Ah oui.
Voilà. Et l'Adam et Ève, pour moi, c'était post-attentat. Et c'était essayer d'avoir un sursaut de vie et avoir encore envie de vivre et de faire des enfants. Et de parler de spectacle, violence, vie et mort.
Une nature sauvage et fuyante. Des paysages hostiles ou féeriques, mais également des scènes plus intimes où le monde de l'enfance joue un rôle prépondérant pour l'artiste Florence Raymond. Florence Raymond fait partie des 10 artistes à l'honneur pour cette nouvelle exposition d'un été contemporain sous le thème « Elle, question de genre » jusqu'au 22 septembre à l'espace Cornille, annexe du musée Paul Dini à Villefranche. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.